J'ai reçu totalement ce qui
s'est passé. Et vous voyez, au cas d'engage, en combinant les deux, le président trouvait une solution par rapport à ça.
Bonjour, le monde va célébrer demain 19 août la journée de l'aide humanitaire, une journée désignée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2008 en vue d'honorer ceux qui ont donné leur vie au service de la cause humanitaire, de reconnaître le travail mené actuellement par le personnel humanitaire dans le monde, attirer l'attention sur les besoins humanitaires dans le monde et à l'importance de la coopération internationale pour y répondre. L'aide humanitaire est une forme de solidarité ou de charité généralement destinée aux populations pauvres, sinistrées ou confrontées à une guerre qui cherche à répondre à des besoins divers. Ça peut être la faim, la santé, la reconstruction après un sinistre, l'éducation, la protection des enfants, mise en place des réseaux d'eau et de communication. L'aide humanitaire peut prendre diverses formes, ça peut être un don d'argent, envoi des marchandises ou équipements de première nécessité, envoi de personnel faisant des interventions sur place, renforcement des acteurs locaux et cette aide humanitaire provient de diverses sources. Vous connaissez ces hommes, ces femmes, des structures engagées dans l'humanitaire. À votre avis, que faire pour faciliter dans votre milieu les actions des humanitaires? Dans notre studio, nous avons M. Sylvestre Toumba Mudinga. Il est notre invité. Il est chargé de l'information publique adjoint à OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. C'est tout pour tout. Thierry Lamézi réalise cette émission. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde et Marie-Chantal Mouba vous la présente.
Par internet ca@radiookapi.net.
Faudrait d'abord signaler ceci que le 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire, c'est aussi la date à laquelle en 2003, ça nous rappelle en fait l'attentat à la bombe perpétrée contre le bureau des Nations Unies en Irak, faisant 22 morts. Parmi ceux-ci, parmi ces personnes, se trouvait Sergio Vieira de Mello. À l'époque, il était haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et représentant spécial du secrétaire général en Irak. Et d'ailleurs, cet attentat et le nombre croissant des incidents tragiques ayant frappé le personnel humanitaire ont fortement milité pour l'institution par l'Assemblée nationale des Nations Unies de cette journée mondiale. Comme je vous l'ai dit en introduction, notre invité se trouve dans ce studio. Bonjour, Monsieur Sylvestre Mbingaï.
Bonjour, Marie-Chantal, bonjour.
Ça fait un peu différent parce qu'avant vous avez travaillé à Radio Capi, aujourd'hui vous êtes à OCHA, donc nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau dans ce studio et comme invité.
C'est un plaisir de vous retrouver à ce studio et je salue aussi les auditeurs de Radio Capi.
Eh bien, aujourd'hui nous parlons de cette journée mondiale de l'aide humanitaire. OCHA, qui est le bureau de coordination de l'aide humanitaire, dites-nous, qu'est-ce que ce bureau organise en marge de cette journée?
Disons que ce n'est pas OCHA qui organise, même s'il assure
la
coordination, c'est son rôle, c'est toute la communauté humanitaire qui se mobilise pour organiser un tas d'événements, d'actualités, pour permettre de sensibiliser l'opinion au travail de l'humanitaire, à la complicité de la crise humanitaire en RDC. Et pour être plus concret, par exemple, au niveau de Kinshasa, nous organisons demain une visite, actualité choléra oblige, une visite au centre de traitement de choléra de Maluku, avec les chefs d'agence, les partenaires du ministère de l'action humanitaire. La délégation sera conduite, sauf changement de dernière minute, par le coordonnateur humanitaire. Ça, c'est au niveau de Kinshasa. On verra également des points d'exploration d'eau, parce que vous savez que le choléra vient aussi par là.
C'est une maladie des mains sales, en fait. On a besoin de l'eau pour tenir le milieu ou les mains, laver les mains à chaque instant.
Exact. Et ça, c'est pour Kinshasa, mais partout en RDC, des activités sont organisées. Ces activités vont des projections de films sur l'humanitaire, suivi des débats, de l'organisation des stands pour montrer à l'opinion ce que font exactement les humanitaires sur le terrain, et ça passe également par des émissions de radio comme celle à laquelle je suis en train de participer en ce moment.
Oui, et c'est vrai que OCHA coordonne les actions des humanitaires, donc vous travaillez, concrètement on peut dire que vous travaillez avec les organisations non gouvernementales et les organisations internationales.
OCHA travaille avec tous les partenaires engagés dans l'action humanitaire. Ces partenaires sont les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales locales, internationales, et avec notre partenaire principal, qui est aussi le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ça fait, en termes de nombre, si vous voulez un chiffre, à peu près 250...
Et ça, c'est dans divers secteurs.
Dans divers secteurs. Nous avons, il y en a qui œuvrent dans le domaine de la santé, vous l'avez dit, de la nutrition, de l'éducation, de la sécurité alimentaire. Je vais peut-être en oublier...
Mais il y en a autant.
Il y en a beaucoup.
Et c'est vrai qu'être un humanitaire, c'est pas vraiment aisé, parce qu'il y a d'abord l'identification des besoins réels de la population sinistrée, et puis trouver des solutions à ces problèmes, que ce soit des solutions d'une manière urgente, à moyen terme ou à long terme, mais aussi il y a cette mobilisation des ressources pour exécuter les projets. Mais en tant qu'humanitaire, l'expérience que vous avez eue sur terrain, quelle est l'étape la plus difficile?
Je ne sais pas, bon, je reprends peut-être en prenant par l'autre sens, je ne sais pas s'il y a des étapes faciles. Parce que la première chose, c'est avoir l'information. Savoir exactement quelle est la situation sur le terrain. Donc, faire une évaluation de la situation humanitaire. Et cette évaluation se fait parfois dans un environnement de conflit, et donc qui ne permet pas toujours aux humanitaires d'accéder aux lieux où les personnes ont besoin d'une assistance. Alors, quand on a fait cette évaluation, les partenaires humanitaires se retrouvent pour effectivement confirmer les besoins qui sont sur le terrain et décider de qui doit répondre à ceci ou cela. Et puisque vous parlez de la mobilisation de ressources, et après cette évaluation-là, il faut aussi savoir si les moyens sont là, et si les moyens ne sont pas là, on doit maintenant faire un travail de plaidoyer pour mobiliser les ressources et les mettre à la disposition des partenaires pour répondre aux besoins des personnes vulnérables.
Mais en grande partie, c'est en appui du gouvernement. Donc, c'est quand le gouvernement se sent débordé qu'à ce moment-là, vous intervenez, ou bien c'est concomitamment?
Si le gouvernement pouvait répondre à tous les besoins, le travail des humanitaires, des ONG humanitaires, mais le pays comme le nôtre qui sort d'une situation de conflit. La situation dans laquelle se trouve le gouvernement aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne peut pas répondre à tous les besoins, d'où l'importance de toutes les organisations, agences humanitaires qui œuvrent justement en appui au gouvernement. Nous travaillons pratiquement toujours en étroite collaboration avec
le gouvernement. Eh bien, vous êtes auditeur, vous êtes ces femmes, ces hommes, vous les connaissez, ces personnes qui travaillent dans l'humanitaire, qui sont engagées, ces structures qui sont toujours à côté de vous. N'hésitez pas de composer le 081 890 69 69, 081 890 69 69, ou de nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapit.net. Comme ça, vous allez nous donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour faciliter le travail des humanitaires dans votre milieu? Nous avons déjà Steve qui se trouve à Mbandaka, Kyombamba à Kolwezi et Justin de Beni.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Steve.
Bonjour.
Je vous appelle Steve. Bon, Steve, vous êtes à Mbandaka. Nous vous écoutons. Est-ce que dans votre milieu, il y a des personnes que vous connaissez qui travaillent dans le secteur des humanitaires? Et à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter leurs actions?
D'abord, avant d'arriver au niveau de condition de facilité, je voudrais d'abord saluer l'initiative des Nations Unies à travers l'élaboration de cette journée qui a son sens fondé. Vous savez que la vie des gens, ici j'appelle les humanitaires, engagés dans les sauvegardes, dans la promotion de la vie des autres. Je prends par exemple ce qui se passe actuellement à la Corne de l'Afrique. Vous serez d'accord que si ce n'était pas ces gens-là, vraiment nos frères de la Somalie et des autres pays touchés là, ne devraient pas se sentir à l'aise tel que je vous parle aujourd'hui. Donc, pour ces gens-là, nous leur devons énormément du respect et la justice est fondée. Alors, question pour la situation par rapport aux conditions de facilité. Vous savez qu'un humanitaire, c'est la personne la plus exposée dans toutes ces conditions. Je prends par exemple ce qui se passe à l'est du pays. Vous savez que les humanitaires sont en train de connaître le temps difficile pour accéder dans des zones difficiles. Donc, il est temps aujourd'hui que pour tout pays qui veut accepter les humanitaires travaillent normalement, d'abord qui est la sécurité. Qui est la sécurité pour que les zones les plus difficiles soient facilement accessibles. À ce que ces gens-là, engagés pour la paix, pour sauver la vie des autres, puissent travailler normalement. Donc, selon moi, je trouve que la journée doit être célébrée et par le gouvernement, et par l'ensemble de tous les citoyens de la République, puisque si un coin est touché comme l'est du pays, si toute la République est touchée, donc nous devons que ces gens, ils ont les bonnes initiatives.
Là, vous avez parlé dans les généralités, dans les globalités, il faut la sécurité. Dans votre milieu à Mbandaka, peut-être vous avez un problème d'eau, il y a des humanitaires qui travaillent dans ce domaine-là. À votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter ce travail-là?
Ah bon, comme ici à Mbandaka, chez nous, nous parlons d'abord de la guerre, les zones ne sont pas difficilement accessibles. Nous avons un problème d'abord de civilisation. Vous savez, la population connaît encore moins ce qui se passe au sein de l'équipe humanitaire. En notre présence, et selon certains messieurs ou peut-être certaines dames qui ne comprennent pas encore l'équipe humanitaire, les humanitaires sont confondus comme des politiciens. Politiciens, c'est-à-dire qu'ils sont usés pour évoluer dans le sens politique alors qu'ils font des travaux à caractère humanitaire. Donc, une forte sensibilisation de la part du gouvernement pour permettre à ce que ces gens travaillent normalement et atteindre leur but.
Merci Steve pour votre participation. Plombaba, vous êtes à Colombie, bonjour.
Mademoiselle, madame Chantal Lumba.
Nous vous écoutons, qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour faciliter le travail des humanitaires dans votre milieu? Nous n'allons pas dans les généralités, parce que je suis sûre que nous aurons des auditeurs qui vont nous appeler des zones qui sont vraiment à haut risque, et ils vont nous expliquer ce qu'ils pensent qui peut être fait pour pouvoir faciliter le travail des humanitaires. Parlez-nous de Kolwezi. Vous avez des structures qui sont impliquées dans les actions humanitaires. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait à Kolwezi pour leur faciliter la tâche?
Merci, madame Marie-Chantal. D'abord, pour la petite correction, je ne suis pas à Kolwezi, je suis à l'Ikasio Katanga.
Merci beaucoup pour cette correction.
Ça fait un peu de temps là que je n'intervenais pas. C'était en mission de service et par raison de beaucoup d'occupations. Maintenant, je voudrais dire tout simplement que, en parlant de l'aide humanitaire, nous pouvons parler d'une organisation d'une chose telle que dans les soucis de promouvoir la santé, nous avons l'OMS qui nous donne quand même de l'aide provenant des médecins sans frontières. En matière de l'éducation, nous avons l'UNESCO et autres là-bas. Mais ce qui est grave, tel qu'ici chez nous, c'est par le fait que nous voyons ici à l'UNESCO que cette aide, c'est-à-dire cette façon de voir les choses n'est pas praticable par les experts en la matière. C'est-à-dire, selon moi, je préfère parce qu'il y a trop de débordements ici à l'Ikasio Katanga. Nous préférons beaucoup plus que lorsque on a l'accès à l'aide, cette aide, pour que cette aide soit bénéfique, il faut qu'elle puisse être pratiquée par les experts et que les gens bien formés en relation internationale, qui connaissent quand même comment améliorer la situation pour qu'il y ait quand même ce qu'on appelle l'intérêt général de la population, pour que toute la population puisse bénéficier de cette aide-là. Nous voyons, nous bénéficions beaucoup d'aide, mais ça passe toujours dans les formules. C'est pour cela que nous demandons vraiment au gouvernement congolais d'exercer ce qui nous importe, c'est-à-dire de faire mieux que, même si on nous accorde de l'aide humanitaire, que ce soit dans quel domaine de la santé, de l'éducation ou de l'alimentation, ainsi de suite, il faut que ça puisse être pratiqué quand même par les personnes qui sont capables, les personnes qui sont censées exercer mieux cette aide.
Donc, à votre avis,
en relation internationale.
Kiombamba, à votre avis, les personnes actuellement que vous connaissez, que vous avez côtoyées dans votre environnement, vous trouvez qu'il faudrait absolument qu'on puisse renforcer leur capacité à pouvoir faire acheminer le plus facilement et d'une manière efficace toutes ces aides humanitaires. Merci beaucoup, Kiombamba, pour votre intervention. Justin, vous êtes à Béni, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à l'invité.
Nous vous écoutons, Justin. Que proposez-vous?
Oui, merci à 100%. D'abord, moi, je salue toutes les ONG locales, nationales et internationales qui viennent au secours de l'humanité.
Mmh.
Et plus particulièrement, Béni participe aux aides humanitaires. Par exemple, je peux citer Solidarité qui a construit les bornes frontales qui alimentent aujourd'hui la ville de Béni. Mais une chose que moi je peux interpeller la population pour changement, pour une bonne évolution de l'aide humanitaire, c'est changement de mentalité seulement. Parce que tout ce que les ONG nous amènent, d'autres personnes nous amènent ici, sont détruites par la même population qui consomme ses biens. C'est pourquoi, premièrement, je vais d'abord interpeller la conscience de la population au changement de mentalité. Ça sera vraiment un moins facile, un atout pour la population. Je vous remercie. Madame.
Donc, Justin, pour vous, il faudrait qu'il y ait un changement de comportement des communautés qui reçoivent ces dettes, qui puissent bien gérer pour permettre aux générations futures ou bien d'améliorer la situation et que ce soit assez durable. Merci beaucoup, Justin de Béni. Malonga, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, madame.
Malonga, nous vous écoutons.
Ok, merci beaucoup. Bon, je vais m'excuser d'abord puisque j'ai un quota près de mon poste récepteur. Peut-être que je vais répéter ce que mes confrères ont déjà dit.
Allez-y.
Ok. Bon, concernant les aides humanitaires, en tout cas, c'est à féliciter d'abord le monde pour cette organisation. Parce que c'est un feu vraiment à aimer et à s'adhérer à ça. Parce que ça réconforte ceux qui se trouvent dans une situation vraiment terrifié. Mais ce que je veux dire ici, hein, madame, les autres sont arrivés ici. Au lieu d'arriver directement à ces personnes qui sont aidées, vous voyez que les réceptionneurs qui reçoivent ces aides font encore des manipulations, tantôt de les vendre ailleurs aux personnes qui n'ont pas besoin de ça. Et les intéressés, en tout cas, ne sont pas vraiment au cœur des dirigeants ou bien au cœur des responsables de ces ONG. Vous savez, je suis interpellé seulement ces organisations. Mm-hmm. Si ils envoient ces aides, il faut qu'il y ait vraiment un groupe de personnes nettes qui doivent surveiller comment est-ce que ces aides sont réparties aux responsables, aux personnes qui sont vraiment en difficulté. Il faut que ça, c'est d'abord, nous n'avons pas besoin de l'aide, hein, parce que nous sommes au rythme des Chinois. Mais à l'intérieur, là, à l'est de notre pays, c'est par là vraiment les aides sont très importantes. Mais si une fois ces aides arrivent ici à Kinshasa, avant d'atteindre soit le milieu de Chabunda, soit de Mwenga, soit de Massi, là où nous écoutons souvent, il y a des hostilités, des guerres, des déplacés de guerre, il doit y avoir un discours de jour, ou bien ces aides vont disparaître dans la nature.
Voilà, non, en vous écoutant, Malonga, pour vous, il faudrait qu'on puisse améliorer dans la gestion de ces aides et se rendre compte qu'effectivement, l'aide atteint les bénéficiaires, mais aussi voir dans quelle mesure on peut voir les priorités, on peut privilégier plutôt les personnes qui ont vraiment besoin de ces aides, mais aussi un suivi. Voilà, en gros, merci beaucoup Malonga de Kinshasa pour votre intervention. Nous prenons Arsène, ce sera le dernier auditeur de cette première série. Nous allons retourner la parole à notre invité. Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Oui Arsène, nous vous écoutons.
Ok, je commencerai d'abord par remercier sincèrement la communauté internationale pour ce qu'elle fait. parce que nous, ici, à Tikrit, nous avons aussi une forte bénéficié vraiment de l'appui international lors de ce que j'appelle, moi, catastrophe d'Ebola. Alors, mes remerciements, j'ai profité de cette occasion. Mais alors, mon intervention va être plus axée vers le retombée des aides. Je parlerai plus des aides qui peuvent nous aider aussi à ne plus chercher encore des aides. Donc, ça veut dire ce qu'on appelle, ne me donnez pas du poisson, mais apprenez-moi à pêcher. Voilà. Et ici, je veux plus axer mon intervention sur l'éducation et l'enseignement. Vous savez que si ce point-là est très bien touché, nous n'aurons pas de difficultés énormes, parce que nous serons capables, et nous aussi de notre côté, d'aller au secours de ceux qui en ont besoin. Bon, nous devons d'abord apprendre, éduquer notre masse populaire, ensuite produire, parce qu'en cas de besoin, pourquoi l'aide doit venir toujours de l'Europe vers l'Afrique? Un jour aussi, que nous nous levons, nous allons dans les pays où il y a la guerre, dans les pays où il y a des catastrophes naturelles, pour qu'on apporte aussi notre aide. Parce que on ne peut pas toujours attendre. Et nous, à quand nous allons aller aider les autres? Donc, je voulais dire ceci, nous, s'il faut demander l'aide internationale ici à Kipit, c'est l'aide dans la formation, l'éducation et l'enseignement. Pour qu'on puisse produire des mecs et nous allons aussi rendre secours à ceux qui en ont besoin.
Il y aura une aide qui soit dans le sens d'un développement durable, hein, dans la stabilisation. Merci beaucoup, Arsène. Mais n'oublions pas que pendant la période où il y avait cette catastrophe en Haïti, la RDC était venue en aide aussi à Haïti. Donc ça signifie qu'il y a quand même cette volonté de temps en temps. Ce n'est pas seulement qu'on reçoit tout le temps, de temps en temps, même si c'est une fois sur 10, mais quand même, il y a ces efforts. Nous remercions Kikuit, plutôt Arsène de Kikuit, pour votre participation.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons dans ce studio avec notre invité. Vous avez suivi cette première série d'auditeurs, des préoccupations, des suggestions, des avis. Par exemple, Steve, concernant la sécurité, pas facile de travailler hein, pour les humanitaires lorsqu'on est dans une zone à conflit. C'est vrai qu'il y a le droit international humanitaire qui régit cela, qui demande qu'on puisse créer un couloir humanitaire. Absolument. Mais comment vous faites dans ces régions-là, vous qui coordonnez ces structures qui ont besoin d'atteindre ces personnes qui sont dans le besoin?
Nous sommes dans un pays qui sort d'une longue guerre et on a encore dans le pays, dans certaines provinces, particulièrement à l'Est, des groupes armés qui sont très actifs. Et pour vous dire la difficulté que nous avons depuis le début de cette année, nous avons eu à déplorer 105 incidents contre les travailleurs humanitaires, le convoi humanitaire, et nous avons même connu un cas qui s'est soldé par la mort d'un travailleur humanitaire au mois d'avril. Donc, c'est pas facile. Nous faisons de notre mieux pour assister des personnes vulnérables, même dans les zones les plus reculées. Mais souvent, nous sommes limités par les conditions sécuritaires, malgré toute la volonté qu'on peut avoir. Les humanitaires, c'est pas des kamikazes, donc on n'est pas...
Et d'ailleurs, par rapport à cela, il y a Madame Karen Perrin, qui est de Otia Goma, qui avait fait une déclaration où elle demandait plus de sécurité pour assurer la sécurité des humanitaires pour aider ces populations.
Et par rapport à cette question de sécurité, nous faisons souvent le travail de plaidoyer auprès des autorités gouvernementales, auprès des autorités militaires, pour qu'ils amènent un peu plus de sécurité dans les zones où se trouvent les personnes vulnérables, afin de permettre aux humanitaires de leur apporter ça. Mais ce n'est toujours pas évident.
Mais aussi cette situation, c'est vrai que l'armée congolaise, à un certain moment, ne contrôle pas une zone, il y a un groupe armé qui contrôle cette zone. Est-ce qu'il a aussi demandé, par exemple, aux humanitaires de pouvoir négocier avec ces groupes armés pour ouvrir un couloir humanitaire ou c'est interdit? Comment ça se passe dans ce genre de situation?
Le principe de l'action humanitaire, c'est notamment l'impartialité, la neutralité. Donc, Nous, on ne prend pas parti, parce que tout à l'heure, quelqu'un a fait allusion aux humanitaires un peu politiques ou quelque chose. Nous, on n'est pas engagé dans des causes politiques. Mais on parle avec tous ceux qui peuvent aider à faciliter l'acheminement de l'assistance humanitaire. C'est ainsi que, par exemple, on a eu dans le passé à faire des plaidoyers, même auprès de certains chefs des groupes armés, hein, notamment des Mai Mai. Nous, pour leur expliquer, vous avez évoqué le droit international humanitaire, il y a des partenaires humanitaires, notamment le CICR, notamment OSA, qui font beaucoup de séances avec notamment l'armée, la police et d'autres aussi, pour leur expliquer l'importance du travail que nous faisons, parce que si nous ne le faisons pas, les hommes meurent.
Et donc, à ce niveau-là, il y a aussi d'autres préoccupations, nous allons un peu évoluer. Donc, pour vous, que ce soit dans des zones de conflit ou bien où il y a la paix, l'essentiel que tout le monde sache que vous voulez atteindre d'abord les bénéficiaires, sans tenir compte qui ne gère pas. La politique, ce n'est pas votre
c'est
affaire.
Pas. Nous, c'est à partir du moment où il y a une situation des personnes qui se trouvent dans une grosse vulnérabilité, et c'est généralement des personnes qui sont mises dans cette situation-là par les conflits, ou par des catastrophes naturelles, ou encore des épidémies. Quand, par exemple, il y a des conflits dans une zone, les personnes se déplacent là où ils vont, ils n'ont pas leur sang, mais ils doivent manger, ils doivent vivre. Et si on ne leur apporte pas ces vivres-là, vous comprenez, on va déplorer énormément
des morts. Oui. Et Arsène qui voudrait un peu savoir, est-ce que vous travaillez uniquement dans l'urgence ou bien à long terme? Parce que
ça, c'est important.
Que ce soit à long terme.
Il faut faire une différence entre les ONG humanitaires et les ONG de développement.
Mm-hmm.
Les ONG de développement travaillent sur le long terme, alors que les ONG humanitaires travaillent dans des situations d'urgence où il faut agir tout de suite pour sauver des vies, alors que, tout à l'heure, Arsène de Kiprik qui disait que l'objectif c'est de mettre fin à l'aide, n'est-ce pas, pour rendre les gens économes. Il y a d'autres partenaires qui s'occupent aussi de ça, notamment dans la reconstruction des infrastructures solides qui permettent à des communautés tout entières de retrouver leur autonomie et tout ça. Mais les ONG humanitaires travaillent spécialement dans les situations d'urgence.
Mais est-ce que vous pouvez donner un exemple un peu plus concret pour nos auditeurs? Au Tchad, il y a eu, par exemple, un sinistre, il y a eu tremblement de terre, par exemple, à l'Est. Au Tchad, va les coordonne avec les structures. Quel genre de structures, à ce moment-là, vont travailler avec au Tchad? Et pour le durable, quelles sont les structures, par exemple, qui vont travailler pour les questions sur le long terme?
Prenons une...
Par exemple, le choléra, disons ce qui est pratique actuellement, parce qu'il y a ce choléra qui continue à prendre assez d'ampleur en RDC.
Oui, quand vous prenez cette situation de choléra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas suffisamment insisté là-dessus, la première chose, c'est avoir l'information, évaluer la situation, réunir les partenaires, faire le point de la situation, savoir qui peut. On dit par exemple qu'on a besoin des intrants de choléra en Bandata. Est-ce que ça existe? Quel partenaire peut apporter une solution auprès de... Si nous avons par exemple MSF, je cite comme ça, en mettant sans frontières, qui a les capacités pour répondre à cette situation, mais allez-y. Mais il peut y avoir aussi un partenaire qui est là disponible et qui n'a pas peut-être les intrants nécessaires, et on peut se tourner par exemple vers l'OMS ou l'UNICEF. Vous savez par exemple que le CPC de Maluku, c'est l'UNICEF qui a apporté tous les intrants.
Là, c'est donc, urgence.
Mais non, c'est urgence.
À long terme.
Alors, à long terme, parce que quand vous allez dans les CPC, vous verrez que c'est des structures en base.
Les CPC, ce sont les centres de
traitement de choléra. Excusez-moi, on est un peu trop habitué à ces abréviations-là. Donc, vous verrez que c'est des structures avec des bases. Donc, c'est pas des choses qui sont appelées à durer. Mais dans le développement, il faut finalement construire des centres en dur, bien équipés, qui peuvent répondre pendant des années.
À ce moment-là, ce ne sont pas les humanitaires qui interviennent, ce sont d'autres ONG qui vont venir.
Oui, mais parfois il y a cette situation qu'on appelle une situation de transition entre l'urgence et le développement, mm-hmm. où on retrouve aussi bien les partenaires humanitaires que de développement.
Mais lorsque vous planifiez, par exemple, ces actions d'urgence, est-ce que vous pensez aussi à pouvoir peut-être contacter d'autres structures qui vont dans le développement?
Il nous est arrivé. Le gouvernement, je vous ai dit que c'est notre partenaire privilégié, c'est le partenaire par excellence du développement de la RDC. Donc, on travaille avec le gouvernement c'est un partenaire de développement.
Oui, et nous allons aussi, vous pouvez répondre à cette préoccupation qui est revenue avec Tombamba, avec Justin, avec Malonga. Qu'est-ce qui peut être fait pour que, effectivement, les bénéficiaires puissent recevoir cette aide? Parce qu'ils ont soulevé des cas où vraiment il y avait un peu de magouille, bon, où ce sont les humanitaires qui sont enrichis sur les dos des bénéficiaires.
Bon, ça c'est juste dit. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de magouille ou quelque chose comme ça. Les humanitaires, ce sont des hommes comme vous et moi. Il peut y avoir des gens qui ne se comportent pas de façon telle que recommandée. Mais ce qu'il faut dire est que, par exemple, quand on évoque de l'assistance qui est vendue à travers les cités dans certaines villes du pays, ce n'est pas toujours le fait des humanitaires. Il est arrivé plusieurs fois que les bénéficiaires de l'aide, pour une raison ou une autre, s'il a reçu du vivre, il a besoin de je ne sais quoi d'autre, il va l'échanger contre, et c'est ce qui fait que parfois les vivres se retrouvent sur les marchés. Vous verrez par exemple des vivres siglés, des agences humanitaires qui se retrouvent parfois dans... Parfois c'est le fait des bénéficiaires. Alors pour contourner cette situation-là, qu'est-ce que la communauté humanitaire organise et fait actuellement? On organise ce qu'on appelle des foires des biens non alimentaires. Au lieu d'arriver auprès d'une communauté vulnérable, on amène les haricots et les couvertures et tout ça. On organise des foires, on implique un certain nombre de commerçants de la place et on remet des bons d'achat aux personnes vulnérables. Cela leur permet de se procurer ce dont ils ont le plus besoin, au lieu que les humanitaires, parce que quoi, ils n'ont pas les choses dont ils ont absolument besoin, ils le revendent.
Est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que l'identification des besoins n'a pas été bien faite, ou bien les besoins sont énormes, qu'on n'arrive pas à tout couvrir, alors on est obligé des fois de faire ce
troc. Tout à l'heure, vous avez entendu quelqu'un dire que parfois, l'aide prend du temps à venir.
Mmh.
Et si l'aide parfois prend du temps à venir, il peut y avoir plusieurs raisons, mais l'une des raisons est qu'on doit d'abord faire une évaluation. Tel que nous travaillons, c'est pas qu'on apprend par exemple qu'il y a une catastrophe ou le tremblement de terre de Bukavu qui s'est produit ce matin, le soir on commence à... Il faut d'abord savoir combien de personnes ont été touchées, combien de maisons ont été détruites, combien de familles ont besoin de l'abri d'urgence en attendant de refaire... C'est quand on a fait cette évaluation-là, et ça, on cible vraiment bien les besoins qu'on peut finalement intervenir.
Nous allons écouter une deuxième série d'auditeurs, par exemple Blaise qui se trouve à Kindu, Arsène qui se trouve à Bukavu, et je rappelle nos contacts 081 890 69 69 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiotapi.net.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Blaise.
Bonjour, maman Marie-Chantal.
Nous vous écoutons, Blaise.
Ah oui, nous avons d'abord à jeter le fleur pour tous ceux-là qui sont en train de travailler dans le cadre de l'aide humanitaire.
Mm-hmm.
Même je suis en train de me rallier aussi à l'idée de mon ami qui a dit que nous devons quand même chercher à mettre fin en aide. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'abord de prévoir, c'est-à-dire, au lieu de chercher toujours à venir pour les aides, il faut commencer à sensibiliser cette population à tout autant de la charge. Parce que nous sommes en train de voir pour plus, on attend d'abord que la population soit sinistrée, que la population ait des problèmes pour qu'on puisse venir à l'aide, alors qu'on peut prévenir ça. Par exemple, ceux qui sont frappés aujourd'hui de la famine, est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer à sensibiliser cette population pour l'agriculture et ainsi de suite, au lieu de se faire attendre à venir seulement à l'aide? de deux mamans, Marie-Chantal Lumba. Est-ce qu'il y a aussi l'hierarchisation des besoins par rapport à ces aides-là? Parce qu'on est en train de voir, la population qui était sinistrée par exemple des inondations, on lui amène des jerkans. Est-ce que cette population avait besoin de ces jerkans-là? Quelqu'un qui est malade, on lui amène des blanquettes. Est-ce que ce sont les besoins réels? En plus de ça, on doit chercher à instaurer l'accès, surtout dans notre pays, parce que quand il y a, quand nous avons parlé quelque part là de l'accès des agents humanitaires dans certains coins, il y a dans certains pays où des gens souffrent, mais il n'y a pas moyen de y accéder. Et pour terminer, je vais poser la question à notre invité. Quels sont au moins les critères qui sont établis pour qu'on vienne en aide à certaines populations? Parce que par contre, nous sommes en train de voir, quelque part, il y a eu des problèmes, mais on intervient plus vite dans un autre point par rapport à l'autre. Et là, bien évidemment, on regarde si cette population est dans quel niveau, par exemple, des problèmes. Mais il y a où il y a, nous connaissons des grands problèmes, mais les aides viennent toujours en retard. Est-ce qu'il y a vraiment des critères qui sont établis par les aides humanitaires pour dire voilà, nous devons d'abord intervenir ici, ou nous devons faire ceci, ou bien il faut faire cela dans un pays pour arriver à aider la population qui est sinistrée. Voilà un peu ma préoccupation par rapport au sujet de l'humanitaire.
Merci, notre invité va répondre à votre préoccupation et surtout, restez branchés sur Radio Capi, comme ça vous aurez une réponse. Vous êtes à Kindu et vous êtes sur 103.0 MHz et nous prenons Arsène de Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Arsène Odo, le responsable de l'HBLTPI. Je remercie de m'avoir encore associé en intervenant pour cette émission parce que c'est mon troisième jour que j'ai le schéma de soutien au terrain. Bon, ce que là, je déplore pour la situation des Rochas, souvent il y a des aides humanitaires qui arrivent pour être quelqu'un soit d'une maladie ou bien des catastrophes qui est terminé au niveau des sangs et tout ça. On tient donc des tests. Alors, la série souvent, on tient, ne s'intéresse pas pour voir si l'aide a été parvenue à la population. Il y a ce qu'on appelle opération retour. On donne de l'aide, mais l'aide ne peut nécessairement distribuer à la population. Sont les gens là qui ont mis des aides, ce sont eux qui vont le bénéficier, soit en volant les maïs, ou bien en volant les sols, en volant les sacs de ciment, tout ça. Bon, et il y a encore d'autres problèmes que je vais nécessairement intervenir à demander. Bon, il y a longtemps que j'ai attendu la radio capitale, la RDC est le capital mondial du viol. Est-ce qu'on tient le courant de ça? Comment il y a des viols en République démocratique du Congo? Il y a des ONG qui font des statistiques qui ne sont pas en ordre. Quand quelqu'un il n'est pas violé, ils arrivent au terrain, ils font des sensibilisations, ils remplissent les macarons uniquement pour avoir de l'argent, et puis on vient à l'OTAN, on donne de faux rapports, et ce faux rapport-là, on tient les publics, soit au niveau des Nations Unies, et notre pays est toujours mal occupé à cause de ces faux rapports-là, de soins de ces ONG. Donc, moi je demande à l'OTAN de vérifier ces statistiques convenablement avant de les publier, ça risque de causer mon pays en ayant soit des réputations mauvaises. C'est ce que moi je voulais vraiment intervenir. Parce qu'il y a vraiment le profond à caractère de l'aide. Il y a des faux rapports qu'on donne chaque jour, mais le chat le publie pour la bataille de ces aides-là, sans même contrôler. C'était ça mon avis.
Merci Arsène. Nous allons, nous restons dans l'est du pays où se trouve M. David Pascal. Il est le directeur pays d'une ONG bien connue, plutôt c'est Merlin, c'est une organisation internationale. Bonjour M. David Pascal.
Bonjour.
Et vous intervenez à partir de Goma, vous êtes sur terrain, dites-moi un peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier, de vos actions?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la parole et je vous parle en effet depuis Goma où je suis basé. Notre organisation est, si je peux dire, elle n'est pas nouvelle en RDC. Nous sommes dans ce pays depuis quelques 13 années et nous travaillons dans les provinces de l'Est, au Maniema et au Nord Kivu. Comme vous l'avez bien dit, nous sommes une organisation humanitaire et d'aide médicale, donc avec un mandat bien précis. Nous travaillons dans les domaines de la santé pour venir en aide aux populations et qui sont dans un état de plus grande vulnérabilité dans les provinces de l'Est. Et aussi, nous avons la vocation d'essayer de renforcer, dans la mesure où nous le pouvons, les capacités de notre partenaire, qui n'est autre que le ministère congolais de la Santé. Et ça serait, disons, les deux grands axes de notre action.
Et dites-nous, vous travaillez aussi, comme vous l'avez dit, dans le domaine de la santé. Il y a eu l'intervenant qui est passé tous avant vous. Est-ce que vous vous occupez, par exemple, des victimes des violences sexuelles?
Oui, en effet, j'ai entendu la question d'un auditeur.
Comme vous êtes sur le terrain, donc vous pouvez lui apporter une réponse.
Oui, je ne voudrais pas entrer dans des polémiques concernant les chiffres.
Mm-hmm.
Par contre, il me semble assez correct, assez juste, assez équilibré de dire qu'on ne peut pas travailler à l'aide de la RDC et ne pas réaliser que ce problème, il existe. Hein, il existe bien. Le nombre de violences sexuelles dans les provinces de l'Est, tant au nord Kivu comme au sud Kivu, existe, ça c'est une réalité. Oui, en effet, nous travaillons là et nous essayons d'aider les victimes de violences sexuelles, non seulement point de vie médical, prise en charge médicale, stricto sensu, mais aussi avec une prise en charge psychosociale de ces personnes. Disons, ça c'est un des axes de notre travail et qui me semble très important ici à l'Est-Kivu.
Et revenons alors aux difficultés que vous rencontrez. À votre avis, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que vous puissiez mieux faire votre travail?
Écoutez, c'est une question très intéressante, en même temps très très complexe. Les difficultés que nous rencontrons sont plusieurs, hein, de plusieurs ordres. Si je devais en citer une, je mentionnerai l'accessibilité. Hein. L'accessibilité aux populations qui se trouvent dans un état de grande nécessité, aux populations vulnérables. Il faut bien comprendre que nous, les humanitaires, on est un acteur, les ONG internationales, on est un acteur d'un certain poids, d'une certaine flexibilité, avec une certaine capacité d'adaptation. Mais nous n'avons aucune vocation à nous remplacer à l'État congolais. Hein. Le Congo, c'est un grand pays, hein, c'est un pays qui a une vocation de puissance régionale, pas moins que le Nigeria, pas moins que l'Afrique du Sud, et qui se trouve en ce moment dans une situation de fragilité. Hein. Dans ce contexte-là, la progressive mise en place des institutions de la République, la progressive installation d'un État de droit, c'est la chose qu'on peut nous tous souhaiter pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions et d'accéder le mieux qu'on peut à notre niveau aux populations qui en ont besoin.
En tout cas, merci beaucoup, Monsieur David Pascal, pour votre intervention au cours de cette émission. Vous êtes le directeur pays de Merlin, une ONG qui est basée, vous êtes basé, vous, à Goma, mais qui existe un peu dans certaines provinces de la RDC. Nous allons donner la parole à Franck, lui aussi est à Goma. Bonjour.
Bonjour, madame.
Nous vous écoutons, Franck. Nous vous écoutons.
Oui, merci pour la parole. Je tiens, à l'occasion de cette journée, saluer que mon collègue, parce que je travaille personnellement dans une agence de Nations Unies. Donc, je salue tous mes collègues qui travaillent dans l'humanitaire, surtout dans une partie du pays qui est très, très réputée en insécurité. Parce que justement, c'est l'insécurité qui est notre maître-moi dans l'exercice de nos fonctions. Donc, je voudrais intervenir en donnant un petit témoignage, juste pour vous dire que j'étais personnellement victime d'une attaque armée, alors que j'étais en train de passer ma fonction. Donc, c'est arrivé le 21 juillet dernier, quand je me retrouvais entre Pini et Mamassa. Donc, je suis tombé dans une embuscade, bien sûr, des hommes notamment identifiés, qui, quelques minutes avant, se livraient à appuyer un camion. Donc, nous, quand on est arrivé sur le lieu, bon, ils nous ont fusillés, on nous a tiré dessus, alors qu'ils ont vu nos véhicules, c'était bien écrit, la saisie, tout ça. Mais ça ne les a pas empêchés de nous tirer dessus. Donc, l'insécurité reste ici vraiment une bête noire.
Mm-hmm.
Donc, nous avons failli perdre la vie, alors que nous étions en train de travailler pour les vulnérables.
Mm-hmm.
Donc, c'est un peu ça. Ce qui est grave, c'est que bon, même si nous sommes débattus à quitter le lieu pour chercher un peu du renfort,
hein, le renfort n'est jamais arrivé parce que nous sommes arrêtés dans un village à Pébello. Pendant à peu près 4 heures, nous avons trouvé des champs de feu à qui on a exposé les feux. En tout cas, on n'est jamais parti intervenir. Les pillards se sont livrés au pillage, ils ont dépouillé les gens pendant au moins 14-3 jours. Et là, c'est quand même grave.
Mais qu'est-ce que vous proposez?
Une sécurité indescriptible et en tout cas, on ne voit pas. Comment est-ce qu'on peut continuer à travailler dans ce contexte?
Oui, mais c'est assez difficile, assez pénible, même en Kisoï, on dit souvent polé quand vous avez ce genre de situation. Dites-nous, et à votre avis, parce qu'on ne va pas baisser les bras, il y a des personnes vulnérables qui attendent, il y a des personnes qui meurent, c'est vrai que vous êtes dévoués, et d'ailleurs il y a plusieurs humanitaires qui ont perdu leur vie en allant aider les autres, mais à votre avis, dans des situations pareilles, qu'est-ce que vous vous proposez? Est-ce qu'il faudrait qu'on puisse vous accompagner avec un convoi militaire? Quelles sont les solutions pragmatiques, des solutions pour aider ces populations qui ont encore besoin de vous?
Non, écoutez, dans le film des Nations Unies, il y a les axes qui sont identifiés rouges. Il est recommandé que nous soyons, que nous soyons escortés par les casques bleus. Mais cet axe-là, à ce que je sache, n'est pas identifié rouge. Nous sommes allés naturellement. Mais écoutez, les Nations Unies, les casques bleus partiront un jour. La MONUSCO partira un jour. Donc, la responsabilité va pratiquement revenir à notre armée qui doit nous sécuriser surtout dans ce pays.
Merci beaucoup, Franck, pour votre témoignage, aussi vos propositions, vos suggestions, et surtout parce que vous-même, en vous écoutant, on sent que vous êtes un humanitaire et vous avez même failli vraiment perdre votre vie, et nous vous remercions pour votre témoignage. Nous allons écouter Marc de Beni, John de Lubumbashi, mais nous allons revenir dans ce studio avec notre invité. Il s'agit de M. Sylvestre Toumba Mudingai, qui est chargé de l'information publique adjoint chez OCHA. OCHA, c'est le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Et nous cheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Le temps d'écouter Marc et John, écouter notre invité qui va répondre aux préoccupations. Marc, bonjour, vous avez la parole. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Oui, nous vous écoutons.
Ok, j'ai juste une préoccupation ou deux. Mais premièrement, c'est d'abord remercier pour l'organisation de l'émission. Alors, j'aimerais poser une observation à l'invité, c'est par rapport à la situation qui s'était vécue à Lubero, dans les territoires de Lubero, les années 2008-2009, où la population avait vraiment manifesté contre des aides. Bon, je ne sais pas si l'invité peut nous trouver son attitude face à de tels comportements de la population. Est-ce que la population a vraiment nécessairement besoin de ces aides-là? Et par conséquent, en cas de guerre, de conflit, par-ci par-là, c'est maintenant qu'on nous amène des aides. Est-ce que si vraiment on pouvait prévenir ces guerres-là, est-ce que ces aides auraient de l'importance pour la population sédentaire qui va se bien à ces préoccupations?
Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur cette manifestation? On a parlé de l'aide humanitaire, c'est un peu plus explicite, parce que c'est un peu vague, hein?
Bon, je précise bien la question. Pour quelqu'un qui est prêt à aller à Socha, très bien là, il retourne, il n'y a pas de cas de conflit, de guerre, est-ce que réellement, pour cette personne-là, elle aura besoin de l'aide au lieu de peut-être de nous aider pour finir avec les problèmes de guerre? Et maintenant, on nous amène des aides. Alors, j'aimerais avoir l'attitude de l'éviter face au soulèvement de la population du territoire de Lubero les années 2008-2009 quand on voulait proposer des aides et que la population n'était pas pour.
Ok, restez branchés, vous avez une deuxième préoccupation, vous pouvez...
Oui, ma deuxième préoccupation est que les aides proposées ici chez nous à Beni, vraiment, au marché, c'est une chose maintenant, ces produits qui sont vraiment à vendre dans le marché public, on vient aussi de tout le monde. Je ne sais pas comment ces aides sont canalisées pour être sûr que réellement les aides ont atteint les bénéficiaires. Parce que C'est maintenant le produit consommé presque dans les marchés publics à la ville de Bin.
Merci beaucoup, Marc. John, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, madame. Je vous appelle à partir de Lubumbashi.
Oui, nous vous écoutons.
Oui, je voudrais participer aussi à la mission.
Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous proposez pour faciliter le travail des humanitaires?
Oui, je crois qu'il y a une adage qui dit qu'il faudra attendre quelqu'un à pêcher au lieu de nous donner un poisson. Je crois que c'est cela.
Dans votre avis, il faut travailler sur le long terme. Merci beaucoup, John de Lubumbashi. Benjamin, vous êtes à Roux, bonjour.
Bonjour, Marie-Chantal.
Oui, vous êtes le dernier auditeur de cette émission. Nous vous écoutons vos propositions.
Okay, merci de m'avoir pas connecté. J'ai seulement une seule préoccupation que je voudrais poser à notre invité. Nous avons constaté dans les ONG, les gens ont souvent l'habitude d'engager les gens qui viennent d'autres milieux au lieu d'associer les gens qui sont déjà sur le terrain. Ma proposition était que si il y a une ONG qui descend sur le terrain, on peut peut-être envoyer seulement des coordinateurs ou des gens qui peuvent coordonner les activités. Et pour avoir des travailleurs, il fallait nécessairement recruter les gens qui sont sur le terrain parce qu'ils connaissent bien les habitudes du milieu, ils connaissent même les langues du milieu, les milieux, ils connaissent ça très bien, ils peuvent facilement communiquer avec la population autochtone.
Merci beaucoup, Benjamin. Merci, nous avons compris votre préoccupation. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'émission. Le temps d'accorder la parole à notre invité qui puisse aussi répondre à ces deux séries d'auditeurs. Nous pouvons commencer notre auditeur de Bukavu qui voudrait un peu savoir est-ce que c'est vrai que Otia coordonne, mais le suivi, l'exécution des projets pour savoir qu'effectivement les bénéficiaires ont pu recevoir cette aide, comment ça se passe?
Les ONG qui sont sur les terrains, c'est des ONG professionnelles qui ont eu à faire ce travail-là déjà pendant un certain temps. C'est vrai qu'on donne, on finance un certain nombre d'ONG à travers plusieurs mécanismes et à la fin de l'opération, on a toujours eu un rapport. Un rapport.
C'est pour les projets que vous financez, mais si l'ONG a participé parce que vous coordonnez l'ensemble.
De toute façon, si que ce soit OCHA ou un autre bailleur qui finance, quand on exécute un projet, on fait toujours. Il y a des aides qui passent par OCHA, il y en a qui vont directement à certaines ONG. Quelle que soit la situation, ces ONG-là font toujours un rapport à leur bailleur et leur bailleur estime, juge si le travail a été bien fait et il y a des ONG qui ont déjà été disqualifiées pour d'autres financements parce que le travail n'a pas été fait. C'est juste pour dire à Arsène de Bukavu que quand même, le travail est fait.
Mais Blaise, par rapport à l'hiérarchisation des besoins, sur base de quoi?
Sur base de quoi? Parce qu'on fait des évaluations. On fait des évaluations sur les terrains et généralement, c'est des évaluations qui comprend des équipes interagences où on trouve des partenaires de tous les secteurs qui font l'évaluation des besoins et après, quand on aura fait le rapport, on fait des recommandations et c'est sur base de ces recommandations-là qu'il peut se faire que, du point de vue de l'humanitaire, on estime que ceci est important, alors que le bénéficiaire sur le terrain pense plus ou moins autre chose, mais on fait vraiment, on essaie de satisfaire au mieux les besoins les plus importants.
Est-ce que vous travaillez aussi dans la prévention? Parce que c'est un peu ça, c'est revenu à plusieurs reprises.
On travaille également dans la prévention et on fait ce que nous appelons des alertes précoces. On peut dire par exemple que dans tel coin, étant donné que la sécheresse est en train de s'annoncer, on risque de connaître une insécurité alimentaire et ça risque d'apporter la malnutrition et on essaie de voir les partenaires qui peuvent réagir.
En cas de catastrophe naturelle.
En cas de catastrophe naturelle, c'est ça que je veux dire, en cas de catastrophe naturelle, tout le monde est surpris,
n'est-ce pas? Il y a un lot qui est quand même, par exemple, il y a des fonds, est-ce qu'ils ne sont pas mis de côté pour réagir?
Il y a des partenaires qui prépositionnent toujours des stocks d'urgence ou qu'on peut solliciter en cas de catastrophe. Ça, ça existe. Il y a toujours des stocks d'urgence qu'on peut solliciter en cas. Mais une catastrophe
naturelle, ça se prévoit pas.
Même si, par exemple, pour le cas de Goma, il y a eu le volcan en 2002, il y a un observateur actuellement qui suit pour essayer de prévenir en cas de. Mais parfois, on est pris par les forces de la nature, on ne sait toujours pas.
Et concernant les chiffres, faux chiffres souvent qui sont avancés, est-ce que vous avez le temps d'aller vérifier sur le terrain les chiffres qu'on vous
donne? On
vous
va amène sur le terrain, on parle avec les victimes et les organisations qui reçoivent ces victimes. Parfois, c'est juste sur base de déclarations. On peut avoir des fausses déclarations. Mais nous, on peut dire de façon certaine qu'on a reçu 10 femmes qui se sont dites avoir été violées. Peut-être qu'il y a eu un mensonge dans le lot, mais
Pas. Et c'est ainsi que nous arrivons vraiment à la fin de cette émission.
Parce qu'on a parlé un peu de fait qu'on ne prend pas les gens qui travaillent sur place, on va recruter moins. Ça, c'est une critique qui revient toujours et ça va résoudre peut-être la question de l'Oubéron. On nous propose. Quand on recrute dans les ONG comme dans les agences des Nations Unies, on fait des offres d'emploi et on demande des gens de venir postuler. Si les personnes sur place ne postulent pas, il nous sera difficile de les engager. Ou si elles postulent, elles ne sont pas parmi les plus qualifiées, il sera difficile.
On ne va pas entrer dans la question d'emploi parce que nous allons organiser effectivement prochainement une émission où nous parlerons de l'emploi. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà fait, mais nous sentons qu'il y a encore ce problème. Les auditeurs ont envie d'en parler, envie de s'exprimer.
C'est une question à laquelle on se bute souvent sur le terrain.
Et c'est ainsi que nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission.
Merci Vincent de nous avoir invité.
Et je rappelle que vous êtes chargé de l'information publique adjoint à OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, ici en RDC. Merci aux auditeurs. Nous allons nous retrouver demain pour le dernier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine. Nous parlerons sport. La tenue des Jeux congolais prévue du 15 au 22 août 2011 a été reportée à une date ultérieure. Plusieurs raisons sont évoquées, notamment un retard dans le décaissement des fonds. D'après vous, que faut-il faire pour l'organisation des Jeux, que ce soit une réussite en RDC? Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio 4.